nouvelle conférence de presse des Nations Unies en République démocratique du Congo. Que vous soyez ici à Kinshasa, de l'autre côté de l'écran à Goma ou à l'écoute de Radio Okapi, soyez les bienvenus. Pour m'accompagner aujourd'hui ici à Kinshasa, Joseph Mankamba, qui représente l'équipe de pays des Nations Unies, et depuis Goma, le porte-parole militaire de la MONUSCO, le commandant Nabil Cherkaoui. À l'occasion du mois du droit des femmes en RDC, j'ai également le plaisir d'accueillir Djamila Seftaoui, qui est la conseillère principale en genre de la représentante spéciale du secrétaire général ici en République démocratique du Congo. Alors justement, pour commencer cette conférence de presse, je souhaiterais partager avec vous l'actualité de la représentante spéciale. Leïla Zeroughi se trouve actuellement à New York dans le cadre des discussions relatives au renouvellement du mandat de la MONUSCO, qui arrive à son terme le 31 mars prochain. Madame Zeroughi prendra part lundi 18 mars à une session du Conseil de sécurité consacrée à la République démocratique du Congo. Des représentants des autorités congolaises seront également sur place. Cette session du Conseil, qui pour les mois de mars et avril est présidée conjointement par la France et l'Allemagne, a notamment pour objet de passer en revue le rapport trimestriel du secrétaire général sur la MONUSCO pour la période allant du 4 janvier au 8 mars 2019. La représentante spéciale du secrétaire général se rendra ensuite à Genève afin de prendre part au dialogue interactif sur la RDC organisé dans le cadre de la 40e session du Conseil des droits de l'homme. Une session au cours de laquelle il sera notamment question du territoire de Yumbi dans la province de Maïdombé, où, comme vous le savez, de tragiques incidents intercommunautaires survenus à la mi-décembre 2018 ont entraîné la mort d'au moins 535 personnes, d'après une enquête menée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Le rapport final de cette enquête a été rendu public hier et on peut y lire que les attaques menées du 16 au 18 décembre dernier sur 4 sites ont été planifiées et exécutées avec le soutien des chefs coutumiers. Ces attaques pourraient constituer des crimes contre l'humanité, de meurtre, de torture, de viol et d'autres formes de violences sexuelles ainsi que de persécutions. Outre le nombre de victimes qui pourrait être plus élevé car de nombreux corps ont vraisemblablement été jetés dans le fleuve Congo, l'enquête a pu confirmer que 111 personnes avaient été blessées et que près de 1000 bâtiments, principalement des maisons, mais aussi des églises, des écoles et des centres de santé, avaient été détruits ou pillés. De plus, on estime à 19 000 le nombre de personnes déplacées, dont 16 000 qui ont traversé le fleuve Congo pour se rendre dans la République du Congo voisine. Le rapport met en garde contre le risque de reprise de la violence et c'est la raison pour laquelle la représentante spéciale du secrétaire général appelle à des mesures immédiates afin de rétablir l'autorité de l'État et à créer les conditions nécessaires pour un retour sûr et volontaire des personnes déplacées. Ceci est particulièrement important dans la perspective des élections législatives qui doivent se tenir le 31 mars prochain. Autre point clé, la lutte contre l'impunité. À ce sujet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, souligne qu'il est important de veiller à ce que les auteurs des crimes soient punis et que les victimes de ces terribles violences obtiennent justice et assistance. Les Nations Unies ont proposé le soutien du bureau conjoint aux droits de l'homme aux enquêtes judiciaires en cours. Joseph reviendra dans son intervention sur les activités menées actuellement par l'équipe humanitaire de pays dans le territoire de Yumbi. Nous aimerions également attirer votre attention sur les signes encourageants que nous avons observés dans certaines provinces du pays où des éléments de groupes armés ont manifesté leur intention de se rendre ou se sont déjà rendus à la faveur de la prise de fonction du nouveau président de la République. Le dépôt des armes par les groupes armés représente une véritable opportunité de stabilisation de la RDC à long terme et c'est la raison pour laquelle les Nations Unies ont signifié aux autorités congolaises qu'elles étaient prêtes à soutenir ce processus de désarmement et démobilisation et de réintégration au sein des communautés. Voilà, nous nous rendons maintenant à Goma pour retrouver le porte-parole militaire de la MONUSCO, le commandant Nabil Cherkaoui, qui va nous faire un point sur la situation sécuritaire. Alors, commandant, on ne vous entend pas malheureusement ici à Kinshasa. En attendant qu'on puisse rétablir la connexion voix, je propose qu'on se tourne tout de suite vers Joseph qui va nous présenter les actualités des agences, fonds et programmes des Nations Unies et on revient vers vous dès que nos collègues techniciens nous signifieront que la connexion est rétablie. Joseph, merci, c'est à vous.
Merci Florence, bonjour aux journalistes ici à Kinshasa et à Goma. Je salue aussi les auditeurs des Radio Okapi. Commençons par cette reprise progressive des activités humanitaires à Kamako, dans la province du Kasaï, qui fait suite au retour au calme observé dans la zone. Les acteurs humanitaires ont commencé à se redéployer pour poursuivre les actions suspendues et en amorcer les nouvelles pour renforcer la réponse. Après la visite de son chef de bureau auprès des organisations humanitaires et représentants des institutions publiques la semaine dernière, OCHA a déployé une équipe pour coordonner les activités sur place à Kamako. Grâce au Fonds central de secours d'urgence CERF, l'Organisation internationale pour la migration OIM a débuté le 11 mars l'opération de transport des expulsés d'Angola vers leurs destinations respectives. Le Haut Commissariat pour le réfugié HCR avait identifié 6000 personnes en besoin de rapatriement. L'OIM prévoit en transporter 4500. Les autres acteurs humanitaires engagés dans la logistique transporteront les restes des personnes. Dans le cadre de ce même projet mis en œuvre en partenariat avec Handicap International et LPH, l'OIM appuie la visite médicale de ces personnes avant leur transport. Ces personnes bénéficient également d'une assistance monétaire inconditionnelle sur les trajets et à leur arrivée à destination. Cette aide leur permettra de payer le transport vers les destinations variées, la nourriture et d'autres articles nécessaires. OCHA et les autres acteurs humanitaires intensifient la conduite des missions d'évaluation intersectorielle de besoins à travers la région du Kasaï afin de déterminer les priorités et d'orienter les activités de réponse. Les provinces du Grand Kasaï, celles de l'ancien Bandundu et la province de Lualaba sont affectées par ces mouvements des ressortissants congolais en provenance de l'Angola. Les activités humanitaires avaient été suspendues à Kamako suite aux affrontements du 24 au 26 février 2019 entre les éléments armés Kamuina-Nsapu et les forces de l'ordre. Parlons à présent de la crise humanitaire à Yumbi où les activités de réponse s'intensifient. En complément aux interventions de première urgence menées au lendemain de la crise dans le secteur de la santé, l'assistance humanitaire multisectorielle sera lancée à partir d'aujourd'hui mercredi en faveur de plus de 15 000 personnes qui sont des déplacés, des retournés ou encore leurs familles d'accueil. Ils devront bénéficier d'assistance en vivres. Ces interventions seront suivies prochainement par une réponse en articles ménagers essentiels, abris en situation d'urgence, eau, hygiène et assainissement, la santé ainsi que la nutrition. La mission d'évaluation menée en début de l'année avait estimé le nombre de personnes déplacées internes à 12 500, tandis que quelques 16 000 personnes se sont réfugiées en République du Congo. Approximativement 1000 habitations des villages Yumbi, Bongende et Nkolo, 17 écoles et 4 centres de santé ont été détruits. Dans le chapitre du développement, retenez que le gouvernement congolais et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, ont développé une stratégie pour lutter de manière durable contre la chenille légionnaire d'automne en RDC. Cette stratégie vise à aider les populations à préserver durablement leur sécurité alimentaire et leurs moyens d'existence. Elle a été mise en place à l'issue des ateliers organisés en fin février 2019 à Lubumbashi à Bukavu sur l'appui d'urgence aux actions de lutte contre la chenille légionnaire d'automne du maïs. Les participants représentant le gouvernement, la FAO, la société civile, les universités et centres de recherche ont passé en revue les objectifs du projet, puis les activités planifiées. Parmi ces activités prévues figure la formation des agriculteurs, par l'approche champ-école-paysan et l'utilisation de la stratégie intégrée de gestion de la chenille légionnaire d'automne. La mise sur pied de cette stratégie s'inscrit dans le cadre du projet financé et exécuté par la FAO à la demande du gouvernement congolais qui s'est engagé aussi à lutter contre la chenille légionnaire d'automne. Cette chenille est actuellement une des causes majeures des réductions de la production de maïs. Voilà tout pour aujourd'hui, Florence.
Merci, Joseph. Alors, on refait une tentative avec Goma et on retrouve le porte-parole militaire de la MONUSCO. C'est à vous. Et malheureusement, je crois que ça se solde encore par un échec. On ne vous entend pas ici à Kinshasa. Je vais faire un petit résumé du texte que devait présenter le porte-parole militaire pour vous dire que dans la province de l'Ituri, la force de la MONUSCO poursuit ses actions visant à contribuer à ramener la stabilité et à apporter de la protection aux populations locales. C'est dans ce contexte que le bataillon du Bangladesh de déploiement rapide a conduit du 1er au 31 mars et est en train de conduire une opération baptisée Ops Stability for Djougou, avec le déploiement de deux bases opérationnelles temporaires à Roé, qui se trouve à 45 km au nord-est de Bounia, et à Loda, à 72 km au nord-est de Bounia. Durant cette opération, des patrouilles intensives sont conduites pour assurer la protection des civils et favoriser des interactions avec les habitants. Dans la province du Nord Kivu, les troupes de l'ONU continuent de remplir leur mandat de protection des civils via la projection rapide et l'installation de bases opérationnelles temporaires afin de contribuer à ramener à la stabilité et prévenir la violence. On peut citer par exemple que deux bases opérationnelles temporaires ont été déployées par le bataillon indien de déploiement rapide du 14 au 19 mars à Niabiondo, à 64 km au nord-ouest de Sake, et du 7 au 17 mars à Bushumba, à 14 km au nord-ouest de Kichanga. Alors, durant ces déploiements, des patrouilles de domination de terrain dans les villages affectés par des actes de violence ont été conduites afin de réagir de manière proactive à la situation en matière de sécurité pour dissuader les groupes armés actifs dans la zone. On cite à ce sujet l'avortement de l'attaque présumée contre le centre de traitement d'Ebola près de Lubero suite à la réactivité de la force de la MONUSCO dès la réception de l'information par le déploiement d'une force de réaction rapide à Lubero et l'alerte de la patrouille onusienne à Mouzianene. Dans le territoire de Beni, en plus de supporter les forces armées de la RDC dans leur lutte contre les groupes armés qui ont notamment récemment attaqué leur position à Kitakandi et l'attaque contre le centre d'Ebola du 9 mars à Itavé, au sud de Butembo, la brigade d'intervention de la force conduit conjointement avec la FRDC deux opérations baptisées Ops Sunrise du 6 au 12 mars 2019 à Eringeti et Ops Tuzo du 4 au 8 mars à Mbogadi pour neutraliser toute présence négative et assurer la liberté de mouvement dans cette zone. Il faut signaler également que la force de la MONUSCO continue à faciliter l'action des agences humanitaires en charge de la lutte contre Ebola dans la région de Beni par la sécurisation des déplacements et le stationnement des équipes de l'OMS et de leurs partenaires jour et nuit dans la région de Boikone et Butembo. Nous allons maintenant dans les Kasaï, où les troupes de la MONUSCO continuent de participer à la sécurisation des camps des personnes refoulées d'Angola, particulièrement à Kamako. La force de la MONUSCO poursuit, en liaison avec les autorités locales et provinciales, ses efforts visant à stabiliser cette partie de la province du Kasaï afin d'assurer une paix pérenne. En résumé, les informations qui devaient vous être présentées depuis Goma par le porte-parole militaire de la force, mais la liaison n'a pas pu se faire. Vous retrouverez l'intégralité de ce texte à la fois sur le site internet de la mission et également dans les documents qui vous seront remis à l'issue de cette conférence de presse. Je vous remercie pour votre compréhension. Alors, vous le savez, la journée de la femme a été célébrée le 8 mars dernier dans le monde entier. Ici, en République démocratique du Congo, on fête le mois des droits des femmes. Autant de manifestations auxquelles la représentante spéciale du secrétaire général aurait souhaité prendre part, mais qui en a été empêchée en raison de l'actualité du Conseil de sécurité qui l'a conduite à New York. Il n'empêche, Mme Zerougui m'a chargée de transmettre un message en son nom, un message dans lequel elle félicite les femmes congolaises malgré tous les défis qu'elles rencontrent, parmi lesquels leur participation plutôt faible au processus électoral en cours. La représentante spéciale reste fermement engagée à promouvoir l'égalité et les droits des femmes et elle espère qu'un nombre significatif de femmes participeront au prochain gouvernement. Pour mener à bien toutes ces questions, Mme Zerougui travaille en étroite relation avec Djamila Seftaoui, sa conseillère principale en matière de genre. Djamila est notre invitée aujourd'hui. Je lui donne sans tarder la parole afin qu'elle nous présente sa mission au sein de la MONUSCO.
Merci Florence. Bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et sans tarder, je vais procéder à la présentation d'une introduction de mon travail. Tout le monde ou presque commémore pendant le mois de mars la journée du 8 comme la journée internationale des droits des femmes. Cette journée a été célébrée pour la première fois en 1911 pour revendiquer le droit de vote des femmes, entre autres. Ceci a été le début d'une longue lutte pour les valeurs de la non-discrimination et la réduction des inégalités de genre entre femmes et hommes, consacrées depuis dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les femmes, la paix et la sécurité, la 1325, que vous connaissez déjà, adoptée en 2000. Le mandat de la MONUSCO sur l'égalité entre hommes et femmes est dans ce prolongement. Et le bureau genre de la MONUSCO que je dirige travaille essentiellement de manière interne, fournit expertise et assistance technique aux programmes de la MONUSCO pour les rendre plus inclusifs des femmes et des filles. Voici quelques exemples qui illustrent notre travail. Dans les zones où les attaques de groupes armés sont récurrentes, nous établissons régulièrement des cartographies de zones à haut risque pour les femmes et les filles, et qui sont préparées sur la base d'informations fournies par les femmes dans les communautés, des alertes précoces, des analyses et des tendances des attaques par les forces négatives. Ces cartographies sexo-spécifiques de risque sont réalisées à présent sur 15 zones et elles sont régulièrement partagées avec la force et leurs partenaires nationaux pour être prises en compte dans leurs patrouilles et dans leurs réponses. Un autre exemple, nous formons des réseaux de femmes médiatrices dans les zones sujettes aux conflits interethniques et armés. Plusieurs centaines de femmes sont ainsi encadrées dans des ateliers de médiation. Elles désamorcent le moment venu. Les tensions interethniques, négocient avec les seigneurs de guerre et les persuadent de libérer des enfants enrôlés dans leurs milices et aident à la démobilisation des membres des groupes armés. Un autre exemple. Avec des jeunes hommes à travers tout le pays, nous promouvons des masculinités positives et nous soutenons des jeunes engagés dans des initiatives de paix dans leur quartier et qui font preuve d'équité et de respect envers les femmes, et qui vivent un modèle de virilité non toxique, sans violence ni discrimination envers les filles et les femmes, nous aidons ces jeunes à parler d'eux-mêmes, se donner en modèle et inspirer toute une génération, des centaines de jeunes congolais, à travers des rencontres et des débats dans les universités, les écoles, la radio, les plateformes de débat organisées par la MONUSCO et ses partenaires de la société civile. Dans votre domaine, le domaine de la communication, nous soutenons des médias sensibles au genre pour une couverture politique non sexiste. Nous aidons à accroître la voix des femmes dans les émissions de radio politique. Nous formons plusieurs dizaines de journalistes et rédacteurs à la couverture politique non sexiste et impartiale, libre de préjugés et de stéréotypes. Les hommes et les femmes de médias travaillant à Radio Okapi bénéficient également de notre soutien et ils donnent de plus en plus la parole aux femmes activistes et politiques. Le pourcentage de femmes sur les émissions politiques populaires de Radio Okapi, par exemple, est passé de 2% il y a un an à 52% pendant la période de campagne électorale. Il est intéressant de savoir que 11 femmes sur 114 candidates femmes ayant utilisé Radio Okapi pendant la campagne électorale ont été élues aux assemblées nationales et provinciales. Plusieurs radios nationales, dont Top Congo, ont emboîté le pas à Radio Okapi et des dizaines de familles de femmes candidates ont pu utiliser leurs ondes pour informer et motiver leur électorat. Je vais m'arrêter là pour une première rencontre. Merci de votre attention et je suis prête à recevoir vos questions.
Merci Djamila. Il est déjà 11h34 ici à Kinshasa.